Check this out.
Goûtez au scandale avec les parfums Jean-Paul Gaultier et laissez-vous emporter dans les coulisses des plus grandes affaires People. Que le scandale commence. Madame Figaro.
Quiconque né dans les années 80 se souvient d'avoir vu cette pub à la télé. Cindy Crawford sortant en mini-short en jean d'une Lamborghini rouge, se dirigeant langoureusement vers un distributeur Pepsi avant de s'enfiler une canette d'entrée sous un soleil de plomb. Grâce à ses images notamment, mais aussi grâce à son corps athlétique et son regard de braise, le mannequin américain est devenu au fil du temps la plus glamour des supermodèles. Dans cette mini-série consacrée à la vie privée des top modèles, la journaliste Marie Sala vous emmène à la fin du siècle dernier, là où ces femmes régnaient sur les podiums et où leur beauté était toute puissante. Comment Cindy Crawford a-t-elle gravi les échelons de l'industrie de la mode si rapidement ? À quel point, avec son brushing parfait et son grain de beauté au coin de la bouche, elle a influencé la pop culture ? Et enfin, comment a-t-elle transmis à ses enfants, tous les deux mannequins aujourd'hui, cette réussite par la beauté ? Je suis Marion Galli-Ramouneau, bienvenue dans Scandale.
She was one of the world's most photographed faces.
Un jour, quelqu'un m'a découvert juste comme ça par hasard.
We are paid because of what we say. We are not paid because of what we are.
So, what was the question?
Claudia! Claudia!
I'm not stupid. I know this is going to end one day.
You never will be on my level. Do not compare yourself to me.
Quel ado n'a pas essayé de refaire, maladroitement, son grain de beauté devant le miroir de la salle de bain ? Cindy Crawford, c'est l'exemple à suivre, l'incarnation de la fille qui est sublime en enfilant seulement un Marcel blanc. Elle donne l'impression qu'être belle et cool, c'est simple en fait. Audrey Millet, chercheuse à l'Université d'Oslo et autrice, nous raconte ses débuts.
Cindy Crawford, c'était tout simplement sa destinée. Parce que quand même ses professeurs l'appelaient la future Miss Amérique. Donc elle avait quand même un physique tout à fait exceptionnel. Donc elle est de la banlieue de Chicago, une famille tout à fait normale, relativement modeste.
Pourtant, Cindy n'a pas vraiment envie d'être mannequin. Elle pense faire des études de physique ou de chimie, en tout cas entrer à l'université. Elle le raconte elle-même dans cet extrait du documentaire Supermodèle de Paul J. Roberts.
Je n'ai jamais voulu être mannequin. Enfin, ce n'est pas que je ne voulais pas, c'est juste que je n'y ai jamais pensé. Je pensais plutôt devenir première femme présidente ou médecin.
Et en fait, elle fait très très tôt, comme les autres, 15-16 ans, sa première photo. Donc ce sont des filles qui commencent très tôt. Elles ont pu durer aussi parce qu'elles connaissent le métier depuis très longtemps. Elles ont tout vu. Elles connaissent tous les rouages. Ça, c'est très, très important. Comme ça arrive souvent, elle a une première expérience qui se passe pas très bien avec son premier agent. Et puis, elle va être récupérée à Chicago où elle va faire du mannequinat à plein temps. Et petit à petit, elle va intégrer, devinez quelle agence, hein ? L'agence Elite, voilà, parce qu'ils avaient des véritables vigiles hein, pour repérer ces filles exceptionnelles.
Elle démarre chez Elite à 17 ans. Après avoir gagné le fameux concours de l'agence The Look of the Year. Mais c'est en 1989, alors qu'elle a 23 ans, qu'elle fait bondir le cœur de toute une génération en présentant sur MTV l'émission House of Style. Le principe ? Une immersion de Cindy Crawford dans les coulisses de la mode, où elle interviewe toutes ses copines de l'époque, Linda, Claudia ou Naomi. Dans l'épisode que vous entendez en fond, on la voit assise en terrasse des Deux Magots, le café iconique parisien, avec un brushing impeccable et un air de première de la classe.
Hi, I'm Cindy Crawford. Welcome to House of Style, coming to you this time from Paris. This city is always buzzing with style and glamour, but even more so right now, as press and fashion.
Cindy Crawford se souvient de ses années House of Style dans une interview.
L'un des avantages de House of Style, c'est que ça permettait vraiment de montrer des situations un peu loufoques, genre Naomi Campbell qui se met de la crème anti-boutons et qui disait « Hey, les supermodèles peuvent aussi avoir des boutons ». Enfin, voilà, tout ce genre de choses qui rendaient notre monde beaucoup plus accessible.
La jeune Cindy gravit vite les échelons de l'industrie. À l'image de son amie Linda, elle aurait déclaré en 1996 « J'ai besoin de 50 millions de dollars pour pouvoir dire à n'importe qui d'aller se faire foutre. » Et heureusement pour elle, son succès éclate rapidement, en particulier à la couverture de Vogue UK en 1990, fameux acte de naissance des supermodèles. Et puis bien sûr dans la foulée, le clip de George Michael, où l'on retrouve Cindy chantant nue en prenant son bain, et enfin le défilé Versace en 1991. Audrey Millet nous raconte.
Elle voyage énormément, elle est photographiée par les plus grands photographes, hein. Donc pour Vogue évidemment, par Avedon notamment. Alors elle a posé pour Jean Ben Simon, ça c'est vraiment le groupe, hein, toute la clique. Helmut Newton, excusez-moi du peu, Lindbergh évidemment. Elle posera également dans Playboy. Alors, pour nous, Playboy, c'est super sulfureux. Alors, ça l'était encore plus. Alors, elle a été également très médiatisée parce que, à l'époque, elle sort avec un des hommes les plus beaux du monde. Et là, c'est Richard Gere. Alors, juste après qu'il ait sauvé la prostituée dans Pretty Woman. Donc, le gars que tout le monde veut. Et elle l'épouse à Las Vegas.
Nathalie Croquaton, ancienne directrice Booking d'élite, se souvient d'un moment clé de son ascension.
Cindy Crawford se met à faire du Pepsi. Ça, c'était très intelligent de faire ça. Parce que même moi, je me souviens, au début, j'étais là, mais pourquoi elles vont faire une photo pour ça? C'est pas moderne, c'est pas la mode, je suis pas d'accord. Et là, on me dit, mais leur nom est plus fort que la mode. Is that a great new Pepsi can or what? Introducing a whole new way to look at
Pepsi and Diet Pepsi. Les répercussions de cette publicité, diffusée pour la première fois lors du Super Bowl de 1992, ont été inimaginables à l'époque. Cindy Crawford décrit cette pub.
Quand les gens se déguisent en moi pour Halloween, ils s'habillent avec cette tenue. C'est la première pub Pepsi que j'ai faite. Je portais évidemment un débardeur blanc et c'était mon propre jean que j'avais ramené sur le tournage. On avait essayé plein de tenues différentes et à la fin, on m'a demandé « Est-ce qu'on peut juste couper ton jean ?» J'ai dit oui et c'est devenu iconique. Grâce à tout ça, la tenue, les cheveux, je sors de cette superbe Lamborghini. Il y avait une super musique. Et la meilleure chose dans cette publicité, c'est bien que ce soit hyper sexy dans tout ce qu'on imagine de plus américain. C'était aussi mignon, parce qu'il y avait ces deux petits garçons qui me regardent et qui, à la fin, s'exclament « Comme elle a l'air trop bonne, cette canette de Pepsi !» Ils ne me voyaient même pas, ils regardaient juste la canette. Je ne pense pas que cette pub aurait eu autant d'impact s'il n'y avait pas eu cette innocence et ce sens de l'humour.
Son corps fait rêver. Pourtant, il n'est pas dans les mensurations classiques de l'époque. Cindy, c'est la sportive, athlétique. Elle a ce qu'on appelle dans le milieu des formes. Bon, disons juste qu'on voit ses fesses, ses seins et ses muscles saillants. I want you to feel empowered and energized and great and a little like you really worked your butt off. First time you do something just for you. En 1992, elle commence à réaliser ce qui restera à jamais dans les annales. Des vidéos de fitness. On la voit donc dans ces vidéos parler de son corps, en body moulant ou en maillot de bain, serrant bien fort ses poids et acceptant des gros plans sur ses muscles en mouvement. Mais ce, toujours avec le brushing parfait, bien évidemment. Richard Gere parlera d'elle après leur séparation en 1995 en disant « Trop belle, trop équilibrée, trop organisée pour moi ». Audrey Millet détaille ce moment de la carrière de Cindy Crawford.
C'est-à-dire que c'est quand même ces années 80-90, ce sont quand même les années fitness. Oui, du culte du corps, on peut le dire, hein, mais ces salles de fitness, vous savez, qui ouvrent un peu partout, où on va même s'habiller à la mode pour aller au fitness. Et puis c'est le girl power. Alors, c'est un girl power qui me semble difficilement viable. Parce que vous avez des enfants, vous finissez le boulot, vous faites à manger, vous les mettez au bain, puis vous allez au fitness. Ou vous allez au fitness le matin. Bon, c'est le mythe, la mythologie de la femme PDG, et c'est la superwoman dans la bulle. Hein.
Car pour Cindy, tout est une affaire de business. Dans les années 90-2000, elle fait des choix qui semblent moins pointus que les autres membres des Big Six. Certaines mauvaises langues la surnomment même la caisse enregistreuse. Elle a déposé son nom en tant que marque, qu'elle prête à de nombreux produits au fil des décennies. À ce moment-là, elle est toujours l'égérie de grandes enseignes et continue à engranger des millions. Et en parallèle, elle possède même un empire en placement immobilier. Même si elle réussit tout ce qu'elle entreprend, elle est sans cesse réduite à son physique. Et ça, ça la frustre depuis toujours. Comme elle le raconte dans cette interview datant de 2021.
Bien que je ne sois pas une actrice, j'ai fait un film, Fair Game, avec William Baldwin. Je jouais une avocate. Et à vrai dire, j'ai été très en colère, car un critique avait dit de moi, comme si elle pouvait être avocate. J'ai trouvé ça très dégradant. Bien sûr que j'aurais pu être avocate. J'ai été majeure de promo, et j'ai étudié l'ingénierie mécanique avant de devenir mannequin. J'avais trouvé ça très tiré par les cheveux.
Cindy, c'est donc l'incarnation absolue de la réussite et du rêve américain. C'était comme si elle avait compris avant tout le monde que les smoothies et le yoga régneraient sur le monde.
Elle s'inscrit dans cette tendance du bien-être. Alors, les gens l'aiment bien parce que, voilà, elle n'est pas cataloguée comme sortant de boîte de nuit complètement alcoolisée ou sniffant de la coke. On ne connaît pas de scandale, en fait.
Du côté de sa vie privée, on la voit par exemple au bras des acteurs Val Kilmer ou encore William Baldwin. Quelques tabloïdes parlent aussi d'une aventure avec John Kennedy Jr. Mais son alter ego, c'est Randy Gerber, ancien mannequin devenu homme d'affaires, comme elle. Il se marie en 1998 sur une plage aux Bahamas. Là encore, le conte de fées continue. Ils incarnent une sorte de perfection. Grand, beau, riche, sourire Colgate. Randy a fait fortune dans la restauration et dans le commerce de spiritueux, aux côtés de non moins que George Clooney. Bref, il n'y a pas d'ombre au tableau. Il ne manque plus qu'une progéniture à la hauteur de leurs espérances. Et c'est justement ici que commence la dynastie Crawford.
Selon vous, quel est le mannequin à suivre de près ?
Kaya Gerber.
Kaya, dans cet extrait, c'est la fille de Cindy et Randy. Kaya a commencé à poser à seulement 10 ans pour Versace Junior en 2011. On pourrait donc parler, dans leur cas, de paroxysme du phénomène des Nepo Babies. Vous savez, les Nepo Babies, ce sont ces enfants de stars que l'on accuse de ne réussir que grâce à leurs parents. Audrey Millet nous parle de cette fusion mère-fille.
C'est peut-être une manière aussi hein, pour Cindy Crawford de voir ce miroir d'elle-même, parce qu'il faut bien dire que Kaya est un copier-coller de Cindy Crawford, c'est en plus jeune, c'est juste incroyable. Alors c'est un peu la dynastie de la beauté brune là qui s'impose, et c'est certainement une manière pour Cindy Crawford de toujours être dans l'industrie de la mode.
Si Kaya dirige sa carrière en grande partie à travers les réseaux sociaux, elle capitalise sur son héritage en faisant des coups marketing grâce à d'anciennes robes de sa mère. Par exemple, pour ses 18 ans, Kaya a demandé à Versace de lui recréer la robe que sa mère avait portée en 1992 au MTV VMAs. Une robe bondage iconique qu'elle demandera plus courte, histoire de s'émanciper un peu. Une affirmation de lignage plus qu'évidente. Les deux femmes sont souvent ensemble pour faire vivre leur marque, autrement dit, leur famille. Par exemple, en 2018, Kaya Gerber reçoit, après seulement un an de carrière dans le mannequinat, le prix de la mannequin de l'année aux Fashion Awards. Tapez Fashion Awards dans votre moteur de recherche et vous verrez qui apparaît en tête. Naomi Campbell, qui remporte un autre prix la même année, celui d'icône de la mode. L'événement célèbre les plus grands noms de l'industrie chaque année à Londres. Et quand vient le tour de Kaya, sa famille l'accompagne.
À ce moment-là, oui, je suis toujours Cindy Crawford, mais ce soir, je suis avant tout la maman de Kaya. La dernière chose que je souhaite, c'est être en compétition avec ma fille de 17 ans. J'adorais ma robe, élégante et chic, mais je ne voulais pas qu'elle attire l'attention. Depuis petite, Kaya, elle joue dans ma garde-robe. Elle allait dans mon placard, elle choisissait des robes Dolce & Gabbana ou d'autres, et je la mettais à sa taille. Et on lui mettait les cheveux n'importe comment, et on la maquillait, on faisait un shooting photo. Et on le faisait aussi avec ses amis. Donc ça ne m'a pas totalement surprise quand elle m'a annoncé qu'elle voulait devenir mannequin.
Mais pourquoi un tel mimétisme? Une telle fusion entre la mère et la fille? Valérie Gorin, sociologue des médias à l'Université de Genève, a son avis sur la question.
Les stars font partie vraiment de ce phénomène de la surconsommation et on nous fait croire qu'on est heureux en consommant. La star adulte associe systématiquement son enfant et l'image de son enfant à ce qu'elle est. Elle la trimballe, en tout cas ces stars-là trimballent leur fille comme elle trimballe un accessoire, un sac à main. Donc ces enfants deviennent vraiment une extension de la figure du parent. Et c'est vraiment pensé comme une stratégie de continuation de la célébrité. Autant les stars doivent se recycler de plus en plus, soit par goût de l'argent, parce que ce qu'elles font ne suffit pas, donc elles veulent constamment produire plus, soit parce que l'industrie dans laquelle elles travaillent s'essouffle. On en est dans quelque chose qui ressemble beaucoup à une forme dynastique. Comme on avait autrefois les dynasties royales, princières, les dynasties de sang. On a eu ensuite les premières dynasties économiques dans le 19e siècle avec les grandes fortunes qui sont nées aux États-Unis. On pense aux Rockefeller, par exemple.
L'enfant comme héritier de la nouvelle royauté moderne, à savoir les célébrités. Mais dans le cas Crawford, ce mimétisme entre mère et fille est tout de même assez flagrant. Ça semble aller au-delà du simple lien de parenté.
Quand on voit Kaya, on a l'impression vraiment d'une mini Cindy. Ce qui permet justement aussi à Cindy de continuer à exister à travers l'image de sa fille. Et effectivement, quand les gens voient Kaya et qu'ils disent « Ah, mais Kaya est aussi belle que toi », ça permet à Cindy de continuer à servir un peu de modèle de beauté esthétique. Et quelque part, j'ai l'impression qu'on parle presque plus ou en tout cas autant de Cindy aujourd'hui qu'on parlait d'elle dans les années 80-90 quand elle sortait avec Richard Gere et qu'elle était au sommet de sa gloire sur les podiums. Quand on voit défiler Kaya aujourd'hui, on voit presque défiler Cindy. Donc c'est une manière pour elle très certainement de continuer à faire du business tout en s'associant à sa fille, mais à un niveau beaucoup plus narcissique, ça lui permet de toujours grappiller en fait des compliments sur sa beauté et continuer en fait à servir d'icône esthétique. Et donc, encore une fois, on est dans cette espèce de continuation de l'idéal esthétique qui a été incarné un certain temps et qu'on voudrait retrouver en fait chez l'enfant.
Il faut savoir que le frère de Kaya, Presley, s'essaye lui aussi au mannequinat. Cette omniprésence de la réussite par la beauté, qui se transmet de génération en génération, alimente un mythe autour de son super-pouvoir. Renée Engel, professeure à l'Université de Chicago, chercheuse et créatrice du Body and Media Lab, nous en dit un peu plus.
La beauté nous fascine parce qu'on la veut pour nous-mêmes. Nous aimons l'admirer sur d'autres que nous. La beauté nous fascine surtout parce qu'elle est liée au pouvoir. En particulier chez les femmes, nous associons leur beauté avec le fait de posséder ce que l'on désire, d'avoir de l'argent et des opportunités, des jets privés, des voyages au bout du monde, ou encore de beaux vêtements et des relations amoureuses réussies. Mais la beauté n'existe pas en soi. Elle est inextricablement connectée à toutes ces choses. Et donc bien sûr qu'on la convoite et qu'elle nous fascine.
La beauté, comme pilier de ce que notre société considère comme les caractéristiques du bonheur et de la réussite.
La plupart d'entre nous pensent que si on y met assez d'une autre, on pourrait être aussi belle que ces supermodèles. Mais c'est un mythe vendu par les publicitaires. La vérité, c'est que la beauté est un type de royauté. Elle s'hérite. Elle est préméditée génétiquement. On ne fait rien pour la mériter, et donc elle n'est pas juste. On l'a ou on ne l'a pas. Et résultat, avec, viennent des privilèges. Et si vous jouez assez bien vos cartes, vos enfants pourront hériter de tout cela aussi et avoir tous les bonus de la vie. Ils auront des pistons parce qu'ils seront beaux. D'ailleurs, on ne traite pas que les adultes de cette manière. On traite les enfants comme ça aussi. On est plus sensible aux enfants que l'on trouve beaux. On les adule, on les adore, on les regarde plus que les autres enfants. C'est vraiment un système injuste. Même si les publicitaires essayent de nous faire penser le contraire en nous disant « Si vous faites assez de sport, allez à la gym, faites un régime, mettez ce mascara, vous ressemblerez à ces supermodèles. » Mais c'est faux, bien sûr, parce que ces femmes sont des anomalies statistiques par définition. Et on ne leur ressemblera jamais, peu importe ce que l'on fait.
Je suis Marion Galli-Ramono et vous venez d'écouter le quatrième et dernier épisode de cette mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro consacré aux supermodèles, écrite par Marie Sala. Kenza Anis a apporté son aide à la production. À la prise de son, Louis Chabin. Jean Thévenin a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi composé les musiques, dont certaines ont été arrangées par Thomas Rosès. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. On revient très bientôt avec une nouvelle série d'épisodes dédiée à Camilla Parker Bowles, la duchesse maudite devenue reine d'Angleterre, envers et contre tous.
Check this out.
Goûtez au scandale avec les parfums Jean-Paul Gaultier et laissez-vous emporter dans les coulisses des plus grandes affaires People. Que le scandale commence.